Un grand merci à notre pasteur et l'équipe de louange. Ils ont bien fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On est très content d'être parmi vous ce matin. Ça fait vraiment, ça nous donne la joie de voir autant de gens que je ne connais pas. Alors, ça c'est bien, franchement. Et ça veut dire que soit ils sont fâchés, ils ont quitté leur église, eux, soit ils sont venus ici pour louer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Est-ce que vous êtes beau et belle? J'aimerais bien partager quelque chose. Je crois que le Seigneur l'a confirmé ce matin. En Luc chapitre 1, le premier chapitre. Est-ce que vous êtes d'accord que je parle en belge? Verset 76. Hein, vous voyez?
La traduction pour les Français.
La traduction, quand tu venais faire la traduction. 76, oui. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Et puis en Luc 3, verset 3, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Je crois qu'il y a des leçons que nous pouvons apprendre de Jean-Baptiste et même de son papa. Et les choses qui peuvent nous aider aussi, ça nous montre ce que Dieu attend de nous. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta présence aujourd'hui parmi nous. Seigneur, merci parce que tu es allé jusqu'à la croix du Calvaire. Et Seigneur, tu es mort pour nous. Tu as donné ta vie, Seigneur, afin que nous ayons la vie en abondance et la vie éternelle. Seigneur, ce matin, je te demande de m'accorder l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi avec ta parole. Seigneur, aide-moi avec la langue française. Seigneur, que tu puisses te manifester au milieu de nous, que nos vies soient touchées par ton esprit, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être vous connaissez bien l'histoire. Il y avait Zacharie qui est le père de Jean-Baptiste. Il était dans le temple, faisait son travail. Et tout d'un coup, il y a... En fait, c'était Gabriel, l'ange qui s'est apparu à lui et commence à lui dire, mais ta femme va avoir un enfant. Il va aller devant le Seigneur Jésus pour préparer le chemin et tout ça. Mais Zacharie, il avait du mal à comprendre ça, même à le croire. Et Dieu, l'ange lui a dit, mais écoute, parce que tu avais du mal à me croire, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et sans doute, quelques femmes parmi nous, vous aurez bien que ça se passe chez vous, je ne sais pas, que votre mari ne parle pas pendant 9 mois. Hein? Oui? Mais quand il a parlé, il a dit pas mal de choses. Alors, il arrive le jour où l'enfant naisse. Et ils ont demandé, mais qu'est-ce que vous allez appeler ce garçon? Ils ont commencé à donner tous les noms, mais il a dit, non, John. Il a dit, mais tu n'as pas de John dans votre famille. Ça va, c'est pas grave. On va l'appeler John. Mais vous n'avez pas de John dans votre famille. Il a dit, donne-moi quelque chose. Pas dit, mais il a écrit. On va l'appeler John. Et à ce moment-là, il commence à parler de nouveau. Et quand Dieu fait les miracles, parfois les gens ils ont peur parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Alors, comme ça, il commence à parler. Et quand il a parlé, il a dit des choses. 67, verset 76, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Alors, il commence à prophétiser. Et d'abord, il commence avec « Béni soit le Seigneur ». Le Dieu d'Israël, c'est bien de commencer nos vies, c'est bien de commencer, commencer notre journée en louant le Seigneur. Simplement pour rendre grâce à Dieu et tout ça. Et il a commencé à parler de ce que son fils allait faire et toutes ces choses. Le verset 70, il a dit ceci, si je le trouve. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Alors, il commence à annoncer, si vous voulez, que Jésus allait naître. Il a dit, mais les prophètes, ils ont annoncé ça. Et quand vous regardez même la vie de Jésus, il était là, et parfois il parlait des choses des prophètes, et ses disciples n'ont pas compris. Alors, il a dit en Luc 24, verset 25, « Alors Jésus le dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et parfois, même les enfants de Dieu, nous avons du mal à croire ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Parfois, nous avons du mal à croire exactement et tout ce que la Bible nous dit. Parfois, c'est difficile. Et même les disciples qui marchaient avec Jésus, ils avaient parfois du mal à comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Il a commencé à ce moment-là, il a parlé de tous les prophètes, tout ce qu'ils ont dit à son sujet. Alors, papa Zacharie, il a dit, « Mon fils, il va proclamer. » Un de ces jours, ce que les prophètes ont annoncé. Alors, c'est la vérité, n'est-ce pas? Alors, et puis, il continue, parce que si vous voulez voir un petit peu ce que les prophètes ont dit, vous pouvez tourner à Ésaïe 53. Pas maintenant, hein, mais lisez ça à la maison. Mais 53, et ça parle de Jésus, de sa naissance, de son ministère et de sa vie. Alors, les prophètes, il a dit, on annonçait un sauveur. La deuxième chose, c'est le rédempteur, celui qui va venir payer le prix pour nos péchés. Et ce qui est bien, c'est que Christ est mort à notre place. Comme nous avons même entendu ce matin, il est allé jusqu'à la croix du calvaire, mourir à notre place. Parce que quelqu'un devait payer pour nos péchés. Alors, Christ est allé jusqu'à la croix pour faire ça. Zacharie prophétisait en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Gloire à Dieu. Il y avait une fois, Jésus, il passait par là et il arrive un groupe d'hommes, il portait un jeune homme qui est décédé. La maman était là et elle pleurait sans doute, mais ça se trouve en Luc chapitre 7, verset 16. La Bible dit, « Tous furent saisis de crainte et glorifiés Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Quand les hommes passaient par là avec ce garçon, Jésus il a touché et le garçon a repris la vie. Et quand Jésus vient, mais il va faire les grandes choses si vous voulez. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu a visité son peuple. Ça c'est pourquoi j'aime bien le mot Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Et c'est bien d'avoir le Seigneur qui nous visite de temps en temps, n'est-ce pas? Comme ce matin, sa présence qui est parmi nous. Et nous avons besoin de la visitation du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin que le Seigneur rende visite à son peuple, dans l'église et même à la maison, là où vous êtes. Nous tous, le monde entier, a besoin que le Seigneur rende visite sur cette terre. Bien sûr, il est venu, il est rentré au ciel, mais son esprit est parmi nous. Il y a des moments où sa présence est merveilleuse. Et nous avons besoin que le Seigneur rende visite à son peuple. Et puis, la troisième chose, il a dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. Vous savez, Zacharie, il a prophétisé, il a dit, mais Dieu va garder son alliance. L'alliance qu'il a traitée, si vous voulez, avec Abraham. Et ce qui est bien, c'est que cette promesse, ça continue jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez. C'est intéressant parce qu'il a dit en Genèse, chapitre 22, verset 16, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est bien que Dieu garde ses promesses envers nous, même aujourd'hui, chaque nation a été béni parce que Jésus est venu. La promesse que Dieu a faite, qu'il faisait avec son peuple. Alors nous arrivons maintenant à la naissance de Jean-Baptiste. Jusqu'on disait c'était la prophétie de Zacharie, son père. Et maintenant on arrive à la vie de Jean-Baptiste. Il est né. Et on lui a dit, mais il faut préparer le chemin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, préparer le chemin? Dans le temps, avant que le roi vienne, ils envoyaient les gens pour préparer le chemin, si vous voulez. Pour être sûr qu'ils pouvaient passer par là, pour être sûr que tout se passe bien, même avec les chariots. Ils n'avaient pas les autoroutes comme ici au Luxembourg. Et parfois, le chemin était difficile. Alors, ils ont envoyé les gens pour préparer le chemin, pour que ça se passe bien. Et en fait, une autre chose, il veut dire ici, préparer les esprits des hommes pour leur donner une bonne perception du Messie et les rassurer sur les bénédictions. Et quand ils ont envoyé Jean-Baptiste, c'était pour qu'il prépare les hommes et les femmes pour le venu de Jésus. Et chacun de nous, si nous sommes chrétiens, nous avons aussi ce ministère à accomplir. Que nous préparions le chemin pour que le Seigneur vienne. Et parce que Jésus va revenir un de ces jours. Et on ne sait pas quand. Peut-être aujourd'hui, avant qu'on parte ici. Mais nous devons préparer le chemin, disons aux autres que Jésus viendra, qu'il va revenir ici sur la terre, il va prendre son peuple. Alors il a dit, allez préparer le chemin. Mais comment le faire, il a dit, mais avec la connaissance du Seigneur, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Le message est Jésus sauve. Amen. Nous avons expérimenté ça. Le salut qui a été donné gratuitement. Mais normalement, vous n'entrez pas dans une salle et vous commencez à dire aux gens, mais vous allez en enfer, votre vie est terrible. Et normalement, ça ne marche pas très bien. Parce que souvent, les gens, ils ne savent pas qu'ils ont offensé Dieu. Ils ne savent pas et qu'est-ce que c'est le péché et toutes ces choses qui nous séparent de notre Dieu. Ils ne sont pas au courant. Alors, nous devons les éduquer, si vous voulez. La connaissance du salut, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit pour nous? Romains 5, verset 12 dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et parfois nous devons entrer doucement, et commencer à parler de Jésus, commencer à parler de la grâce de Dieu, commencer à parler bien sûr de son amour, mais il ne faut pas oublier que nous tous, nous avons péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur se trouvent dans cette catégorie. Mais nous devons les éduquer, nous devons présenter, si vous voulez, le salut. Deuxième chose, c'est que le pardon du péché. Le pardon, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Tout à l'heure, on a entendu le mot pardon plusieurs fois. Mais ça veut dire libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Vous savez, il y a autant de gens qui sont esclaves à leur péché. Ils sont emprisonnés par leur péché. Peut-être quelques-uns parmi nous, vous étiez comme ça. Peut-être ça, c'est vous ce matin. Vous êtes prisonnier de ce que vous avez fait. Il y a des choses qui te tiennent, qui t'empêchent à t'avancer vers le Seigneur. Ça veut dire aussi oubli ou pardon des péchés. Quand nous venons devant le Seigneur, quand nous demandons pardon de nos péchés, c'est comme si nous n'avons jamais péché. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le sang de Jésus qui efface nos péchés. Et nous avons tous, bien sûr, besoin du pardon. Parce que, comme la Bible dit, nous tous, nous avons péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le pardon, de savoir que Dieu nous a pardonné, on était coupable devant lui. On était coupable, mais en venant au Seigneur, il efface nos péchés, il brise les chaînes, il est capable de libérer les hommes et les femmes. Gloire à Dieu. La Bible dit en Actes chapitre 5, verset 30, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. » Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et puis en Actes 26, verset 17, la Bible dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux. » Et qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu qu'il nous a pardonné de nos péchés? Et notre ministère à chacun de nous, c'est d'aller annoncer le pardon, c'est d'annoncer le retour de Jésus, si vous voulez, et de... pour que les gens puissent savoir qu'eux aussi, ils peuvent être pardonnés de leurs péchés. Paul a dit en Éphésiens chapitre 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Alléluia. On était tous coupables devant lui. Mais grâce au sang de Jésus, nous avons été pardonnés de nos péchés. Et le monde a besoin de connaître ça. Puis, la troisième chose, il a dit ceci, commencez par sa miséricorde. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est de ne pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite. De ne pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite. La grâce est donnée à quelqu'un ce qui n'a pas mérité. Vous voyez la différence. Et souvent les gens qui vont, les enfants parfois, papa et maman sont fâchés, les enfants disent pitié, pitié. En fait, ils veulent recevoir la miséricorde, de ne pas recevoir ce qu'ils ont mérité. Et c'est par la grâce et la miséricorde que nous sommes sauvés. Amen. Dieu ne nous a pas donné ce que nous avons mérité. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, ce n'est pas le cas. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vérité. Pardon, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne nous a pas donné la mort. Mais en fait, il nous a donné la vie. Il nous a donné, si vous voulez, la joie. Il a exercé sa grâce envers nous. Et ça, c'est le message que nous devons partager aussi. Ce que Dieu a fait dans nos vies. Ce que Dieu a fait dans nos vies. Ésaïe 55, verset 7, la Bible dit que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion ou la miséricorde, si vous voulez, de lui. Un autre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Dieu est tellement grand. Il est au-dessus de nous. Gloire à Dieu. Il est là, mais il nous donne sa miséricorde. Il dit aux hommes et aux femmes, et abandonnez votre mauvais chemin. Changez, venez à moi, il voulait dire. Et ça, c'est le message que nous devons partager. Psaume 145, verset 8, l'Éternel est plein de grâce et de compassion, de miséricorde, si vous voulez. Lent à la colère et riche en amour. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Ephésiens 2:4, mais Dieu est riche en bonté, compassion, miséricorde, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu, il nous aime avec un amour qui dépasse notre compréhension. Il étend sa grâce, sa miséricorde envers sa création. Mais souvent, les gens ne sont pas au courant de ce message. Et tout comme il a dit, mon fils Jean-Baptiste, il va préparer le chemin. Dieu veut que nous fassions la même chose. Dieu veut que vraiment nous fassions les choses prêchées, préparer le chemin, mais prêcher l'évangile, la gloire, la paix, la miséricorde. Et puis il a parlé du soleil levant. C'est intéressant que Christ est l'étoile du matin, n'est-ce pas? Mais si vous êtes debout tôt le matin, avant de voir le soleil, vous commencez à voir un peu de lumière, n'est-ce pas? Et cette lumière, en fait, annonce le venu du soleil. Et nous sommes un peu comme les rayons de soleil, si vous voulez. Nous annonçons le venu de la lumière. Nos vies, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, doit annoncer que Jésus vient. Il vient. Vous savez, le monde est plein de ténèbres. Et nous tous, nous avons été là. Le monde est triste. Là où vous allez, nous voyons les ténèbres sur cette terre. Psaume 143, verset 3. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Ce monde est rempli de ténèbres. Les gens marchent dans les ténèbres. Ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils cherchent ici à gauche, à droite, parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Je ne sais pas si ça vous arrive peut-être en pleine nuit de se lever pour aller aux toilettes. Et si vous n'allumez pas la lumière, même que vous connaissez un petit peu le chemin, hein? Ce qui est terrible, une fois, quand j'étais dans une église aux États-Unis, on était jeunes et on a fait la répétition, la musique, la nuit avant l'église. Alors on est allé chez le frère et sa fille jouer le piano et tout ça. On a mis la batterie là. Et le lendemain, le papa de cette jeune fille, il entre, mais il boitait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, mais tu sais, j'ai oublié que vous avez mis la batterie là. Et en pleine nuit, je me lève pour aller aux toilettes. Et avec mon corps, j'ai joué la batterie. Alors parfois, les gens font comme ça, ils ne voient pas où ils vont parce qu'ils se trouvent dans les ténèbres. Et même les enfants, parfois, ils ont besoin de la lumière pour leur montrer le chemin. Le monde entier, les gens, ils ont besoin de la lumière et qu'on puisse leur montrer le chemin. Alors, le levant du soleil, Ésaïe 9, 1 a dit ceci, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre, la mort, une lumière resplendit. » Alors, ceux qui se trouvent dans la lumière, dans les ténèbres aujourd'hui, ont besoin de la lumière. Et c'est à nous de montrer, si vous voulez, la lumière. Et puis la dernière chose qu'il a dit, ça parlait de la paix. Il a dit pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il y avait une fois les bergers qui ont entendu ce chant, qui disait ceci, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Normalement, nous chantons ça vers Noël. Hein? Mais la paix est quelque chose qui est difficile à trouver aujourd'hui, qui nous échappe souvent. Moi, je vais aller plus loin et souvent, c'est le cas dans l'Église. C'est incroyable de voir autant de gens qui sont chrétiens qui n'ont pas de paix. Franchement, parce que nous servons le prince de la paix. Et les choses qui nous entourent, parfois, ça nous enlève la paix. Parce que nous commençons à regarder les choses au lieu de regarder le Seigneur, le prince de la paix. Et nous avons besoin de lui, mais il nous a promis la paix. Ésaïe 9, 7, « Donnez à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Jésus, avant de partir, il a dit ceci, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'acclame point. » Nous, parfois, nous avons les arlants parce que chez nous, maintenant, c'est la saison des tournades. C'était avant-hier que nos filles étaient chez nous parce que nous avons le cave. Il y avait les tournants qui passaient par là, mais il y a une alarme qui va sonner pour annoncer les tournants. Mais il a dit que votre cœur ne se trouble pas et que vous n'avez pas, il ne faut pas s'alarmer si tu veux. Il ne s'alarme point. Souvent, malheureusement, nous voyons les gens qui n'ont pas de paix. Il y a quelque chose qui se passe, il y a l'alarme qui commence à sonner à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas de paix. Et Jésus a promis la paix. Jésus lui-même a promis là. En Marc 4, verset 38, il était avec ses disciples et a dit, écoute, mon, sur la barque, nous allons traverser le lac. On va aller de l'autre côté. En chemin, là, il y avait le tonnerre qui commence, il y avait les vagues qui commencent à danser partout. Et les disciples, ils avaient peur. Et en plus, il y avait Jésus qui dormait. Ils viennent auprès de Jésus, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Nous avons peur pour nos vies. Vraiment la crainte qui est là, mais Jésus, regarde un petit peu. Il se lève. S'étant réveillé, il menace le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. En autre mot, il y avait de la paix. Vous savez, la paix n'est pas l'absence du conflit. La paix est la présence de Jésus dans le conflit. Quand les choses ne vont pas bien, nous, normalement, nous voulons que le Seigneur enlève les problèmes, les difficultés. Seigneur, s'il y a une montagne devant moi, mais tu peux l'effacer, tu peux le faire disparaître. Et parfois, le Seigneur nous donne le pouvoir de souvent monter. De grimper sur la montagne jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Et parfois, il déplace les montagnes. Mais souvent, nous voulons qu'il les enlève, qu'il les déplace. Mais parfois, non. Il faut savoir que même quand vous traversez les tempêtes, je suis avec vous. Et ça, c'est la paix. Ça, c'est la paix. Il y avait David... Quand il était jeune homme, son papa a dit, mais écoute, tu prends le fromage, sans doute il avait le côté français là, tu prends le fromage et le pain, et vous descendez vers le combat. Vous allez donner ça aux autres, aux Français, mais vous regardez un petit peu au sujet de tes frères, parce qu'ils étaient soldats. Et lorsqu'il arrive là-bas, il n'est pas descendu pour, en tant que soldat. Il arrive là-bas, il entend le cri de Goliath. Je suis le grand, je suis da-da-da-da-da-da-da. Et tout d'un coup, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il se moque le Dieu que je sers. Il a dit, moi, je vais prendre les choses en main. Alors son frère, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu n'es pas soldat. C'est nous qui sommes vraiment les soldats. Mais tous ceux qui étaient soldats ne faisaient rien. Mais Jean David, il arrive, il entend ce que l'ennemi était en train de dire. Il a dit, mais non, ça ne marche pas. Il a dit, mais vous savez, il a dit même à Saoul, il a dit, quand j'étais jeune, j'étais là, j'étais berger. Il arrive un lion, il arrive un ours qui voulait prendre les moutons. Il a dit, mais je les ai tués, j'ai sauvé les agneaux. Et je suis convaincu que le même Dieu qui m'a aidé à ce moment-là, il va m'aider à détruire Goliath. Et sans doute, ça lui a donné la paix. Il n'est pas descendu même avec une épée dans sa main. Il est descendu juste comme un enfant, juste comme un serviteur. Il était en train d'obéir à son papa. Il a dit, mais écoute, là-bas... Il a dit, non, vous ne comprenez pas. Vous parlez contre mon Dieu. Et même dans les moments de difficulté, même si l'ennemi est en train de me promettre des dégâts, j'ai confiance en mon Dieu. La paix n'est pas l'absence du conflit, mais la présence de Christ au milieu du conflit. Et parfois, il nous enlève et parfois, il nous donne la force pour traverser. Nous, parfois, nous devons comprendre que le Dieu qui nous a aidés avec le lion est le même Dieu qui va m'aider aujourd'hui. Le Dieu qui m'a aidé avec l'ours, c'est le même Dieu qui va m'aider aujourd'hui. Parce que je suis enfant de Dieu. Il a promis la paix. La paix nous échappe souvent. Mais nous servons le prince de la paix. Amen.